France Culture. Bonjour et bienvenue dans Culture Monde, une émission préparée avec Barthélémy Gaillard, Quentin Péchard, Sacha Mattei et Loïc Antoine, réalisée par Vivian Lecuivre et à la technique ce matin, c'est Ludovic Auger. Culture Monde, le vendredi, c'est une émission en deux parties. Le retour de terrain, d'abord, nous recevons ce matin le grand reporter du Figaro, Cyril Louis. Il rentre d'un voyage dans les pays d'Europe qui partagent une frontière avec la Russie, de la Norvège au nord jusqu'à la Pologne, qui jouxte l'enclave de Kaliningrad. Des pays qui tous augmentent leur budget militaire et où les patriotismes s'aiguisent. En deuxième partie, pour la table ronde d'actualité co-animée avec Marc Semo, notre partenaire du journal Le Monde, nous parlerons de l'Iran, que peut la soi-disant communauté internationale, alors qu'on ne sait pas très bien ce que prépare Donald Trump, qui a déclaré encore cette nuit qu'une armada navale est en route pour le Golfe Persique, quand les Européens, eux, travaillent sur un paquet de sanctions. Nous en parlerons avec nos invités, les chercheurs Farid Veid et Thierry Coville, que je vois, que je salue, qui sont avec nous derrière la régie. Bonjour et bienvenue.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
Il est une phrase de l'écrivain albanais Ismail Kadare qui dit en quelques mots ce que peut ressentir un homme quand grandit le sentiment qu'il ne pourra pas échapper à la guerre, qu'il sera sans doute appelé. Il avait 26 ans, écrit Kadare de l'un de ses personnages, et pour la première fois, son nom pénétrait dans les fondements de sa vie. Dehors, les messagers de la mort se le transmettaient comme sur des ailes. Et c'est ce que doivent ressentir beaucoup des hommes et des femmes que notre invité, le journaliste Cyril Louis, a rencontré dans 6 pays d'Europe qui partagent une frontière avec la Russie, y compris son enclave de Kaliningrad, 6 pays dont les autorités en place préparent et leur armée et leur nation à une guerre, de la Norvège à la Pologne en passant par la Finlande, l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie. Bonjour Cyril Louis.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes grand reporter au Figaro. Vous avez signé une série de 6 reportages, Voyage le long du nouveau rideau de fer. Un voyage qui commence en Norvège, à Kirkenes, une ancienne ville minière de 3500 habitants. On est au bord d'un fjord qui se jette dans la mer de Barents. Et en face, alors non pas au large, mais de l'autre côté de la frontière terrestre qui sépare ce bout de Norvège de la Russie, il y a la péninsule russe de Kola. Qu'est-ce qu'on sait des installations et des effectifs militaires russes qui se trouvent en ce moment à Kola?
On sait que la péninsule de Kola est, depuis plusieurs décennies, mais peut-être plus encore depuis quelques années, un bastion crucial pour la Russie. Un bastion stratégique dans lequel se situent de nombreuses bases militaires. Certaines abritent les bombardiers stratégiques que la Russie utilise pour frapper l'Ukraine. Et puis surtout, on a près de la ville de Mourmansk le port de Severomorsk, qui est la base de la flotte du Nord, la grande flotte du Nord russe, qui comprend un nombre important de sous-marins stratégiques, de sous-marins lanceurs d'engins, sur lesquels reposerait la dissuasion russe en cas de conflit avec l'OTAN.
Parce que ces sous-marins peuvent accéder à l'océan Atlantique en passant par la mer de Barents. Il y a des hommes sur place, des soldats, ou beaucoup sont en Ukraine en ce moment?
Alors, les services de renseignement militaire norvégiens considèrent que 80% des soldats dépendant d'unités qui sont basées près de la frontière avec la Norvège sont depuis 4 ans déployés en Ukraine. Cela étant, ça n'empêche pas l'armée norvégienne de se faire du souci. Elle a d'ailleurs décidé de reconstituer une brigade dans le comté septentrional de Finnmark, la région qui est frontalière de la Russie. Après 30 ans de désarmement, comme de nombreux pays européens, la Norvège a décidé de remuscler son armée parce qu'elle sait qu'en cas de fin des hostilités en Ukraine, il suffirait probablement de quelques mois ou plus quelques années à la Russie pour repositionner un nombre important de troupes près de la frontière avec la Norvège.
La Norvège qui donc va créer cette brigade qui comptera entre 3 et 5 000 hommes dans le nord du pays. Elle en parle comme d'une force de dissuasion. À votre arrivée, Cyril Louis, vous observez depuis le port un bateau de pêche, un chalutier qui bat pavillon russe et qui vient de jeter l'ancre. Il y est donc autorisé. À quelles conditions ?
Alors oui, depuis le début de la guerre en Ukraine, évidemment, l'accès aux ports européens pour les navires de pêche russes s'est beaucoup restreint. La Norvège, elle, continue d'autoriser dans 3 de ses ports les chalutiers à jeter l'ancre, et ce, pour essayer de préserver un accord de gestion des stocks de pêche en mer de Barents, qui veulent pas voir s'effondrer complètement. Donc, il y a 2-3 ans, il y avait encore plusieurs dizaines de navires russes qui passaient une partie de l'année dans le port de Kirkenes. Ce nombre a beaucoup baissé parce que la Norvège commence à transposer les sanctions européennes qui visent les compagnies de pêche russes. Mais il en reste encore quelques-uns. Et alors, ils sont surveillés de près parce que les services de renseignement intérieur norvégiens, le contre-espionnage, soupçonnent l'armée russe d'utiliser ces pêcheurs, ces marins-pêcheurs qui sont des civils, pour notamment recueillir du renseignement. Et c'est vrai que ces hommes, quand ils viennent à Kirkenes, ils peuvent y passer plusieurs jours ou quelques semaines, et ben ils se déplacent dans la ville, voire un peu au-delà. Et dans un certain nombre de cas, ils ont été pris en flagrant délit de prendre des photos ou avoir des comportements qui pourraient s'assimiler à des tentatives de reconnaissance. Les services ont resserré un petit peu la vis. Désormais, le périmètre dans lequel les marins russes sont autorisés à se déplacer est restreint en gros au centre-ville de Kirkenes. Et ils sont surveillés de très près. D'ailleurs, quand un bateau jette l'ancre, comme j'ai pu l'observer lors de mon reportage, la police norvégienne monte à bord pour d'une part identifier les marins qui se trouvent à son bord et d'autre part pour essayer de regarder un peu quel type de matériel ils ont.
Être sûr qu'ils ne sont pas équipés d'appareils radio, par exemple, qui leur permettraient de communiquer sur des fréquences militaires. Donc de la Norvège à la Pologne, en passant par la Finlande, l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie, qui partagent une frontière avec l'enclave de Kaliningrad à l'ouest et la Biélorussie à l'est, vous avez pu constater une préparation militaire à la guerre. Quels sont d'abord les visages de ces préparatifs, Cyril Louis, des plus jeunes aux plus âgés, des soldats d'active aux tout jeunes conscrits ?
Oui, dans la plupart de ces pays, il y a d'une part une armée, souvent une armée professionnelle, qui est le socle de l'appareil de défense, mais qui est souvent un socle assez maigre, qui est en train d'être remusclé. Je fais juste une parenthèse pour dire que ce n'est pas le cas de la Finlande, qui, elle, n'a jamais baissé la garde et a conservé une armée de conscription, une armée de réservistes. Elle serait capable de mobiliser très rapidement 280 000 à 300 000 soldats en cas de menace immédiate. À l'exception de la Finlande, les pays disposent donc d'une armée de métier peu nombreuse. Et donc, ces pays s'appuient sur la mobilisation d'une espèce de réserve citoyenne. Alors, ça prend des formes différentes, mais il y a des forces paramilitaires, notamment dans les pays baltes, qui se sont beaucoup développées depuis 2014 et l'annexion de la Crimée par la Russie, parce qu'en fait, c'est ce moment-là qui, pour les pays baltes, a sonné le signal du réveil. Et donc, on peut rencontrer, outre les soldats de métier, des civils qui passent leur week-end, leurs vacances, à crapahuter dans la forêt en uniforme militaire. Ils apprennent à se servir d'une arme, à conduire des manœuvres militaires sommaires. Ce qui est assez frappant, c'est que ces gens, c'est des gens comme vous et moi, des ouvriers, des agriculteurs, des cadres, parfois des cadres supérieurs dans des secteurs comme la finance ou les assurances, qui ont aucune expérience militaire, mais qui considèrent qu'il est important d'être prêt dans la perspective, à leurs yeux, pas si lointaine d'une confrontation avec la Russie.
Vous racontez par exemple ce jeune couple en Lituanie qui vous accueille dans son joli appartement de la banlieue de Vilnius avec un écran de télévision qui diffuse un feu de cheminée et qui vous parle de ce sac à dos stocké dans un recoin de l'appartement qui contient de quoi survivre 3 jours au cœur de la forêt. Ils se sont portés volontaires auprès de l'Union des Fusiliers de Lituanie, qui est une organisation paramilitaire qui forme 12 000 volontaires pour appuyer 23 000 soldats d'actifs. Vous rencontrez aussi des jeunes conscrits qui ont encore encore le visage de l'adolescence et qui, en Carélie du Sud, en Finlande, apprennent à s'habituer aux détonations et à l'odeur de la poudre. Ensuite, ils apprendront à abattre des drones semblables à ceux de l'armée russe qu'elle utilise en Ukraine. Les commandes militaires, cette fois, tous les pays également que vous avez visités ont augmenté leur budget militaire avec aussi des débats politiques en interne. Il en est pour s'y opposer ?
Alors, je pense que c'est difficile dans ces pays de s'opposer pour un responsable politique de façon très explicite à ses commandes. Et le niveau des commandes dépend beaucoup des ressources des pays. La Finlande, en fait, je le disais, n'a jamais baissé la garde et a commencé à racheter des chars, des canons d'artillerie,
des avions de combat,
des véhicules de transport de troupes, des avions de combat, des frégates. Dès le début des années 90, au moment où de nombreux autres pays européens étaient plutôt en train de baisser la voilure et de se séparer d'une partie de leurs équipements. Ces acquisitions se sont faites parfois au détriment des budgets sociaux notamment, mais dans un pays comme la Finlande, qui se vit comme une espèce de Sparte sur la mer Baltique, ça fait pas vraiment débat. Dans les pays baltes, c'est un peu plus compliqué parce que ce sont des pays, notamment la Lettonie, qui ont moins de ressources financières. Et donc là, il faut faire des arbitrages. Et c'est vrai que, notamment dans les minorités russophones en Estonie et en Lettonie, il y a d'importantes minorités russophones qui se sentent souvent discriminées, qui habitent souvent des régions qui affrontent des difficultés économiques et sociales. La décision d'attribuer une partie importante des ressources au renforcement militaire est contesté, voire critiqué, par des minorités russophones qui considèrent souvent que la menace russe est exagérée.
Est-ce que d'ailleurs ces minorités russophones vivent aujourd'hui, enfin est-ce que chacun vit désormais dans son coin entre les habitants de ces villes et, j'allais dire et, mais pourquoi faire une distinction, ce sont aussi des habitants, mais les communautés russophones qui sont parfois très nombreuses, par exemple à Narva en Estonie où vous êtes allé, donc l'Estonie, celle des trois républiques baltes qui est la plus au nord, la population est presque exclusivement russophone à Narva, 95%. Comment vous les avez ressenties, ces tensions, si elles existent et si elles sont exacerbées entre les russophones et les non-russophones ?
Ouais, alors je ne sais pas s'il faut parler de tensions, en tout cas, sans doute pas en généralisant, mais il y a incontestablement une fracture qui en réalité est très ancienne. Il y a toujours eu des vases clos, y compris sous l'occupation soviétique pendant la guerre froide, entre la population estonophone, pour ce qui concerne l'Estonie, et la population russophone. Après l'indépendance du pays en 1991, les efforts pour intégrer la population russophone, qui est importante, en fait, ont été insuffisants. Et j'ai le sentiment que les autorités se sont réveillées en 2022 au moment du début de la guerre en Ukraine en se disant on a un énorme problème, on a entre un cinquième et un quart de notre population qui est russophone et donc la loyauté peut paraître poser question. Et depuis, ils ont mis en œuvre des efforts d'intégration un peu à marche forcée. Alors ça se fait par exemple en interdisant l'enseignement du russe dans les écoles alors qu'il a longtemps été autorisé. Ça se fait en menaçant d'interdire l'église orthodoxe si elle ne coupe pas ses liens avec le patriarcat de Moscou.
Ça, c'est l'Estonie, oui.
C'est l'Estonie. Ça se fait en interdisant le vote aux élections locales de citoyens non-estoniens russophones qui avaient jusqu'à présent le droit de s'exprimer aux scrutins locaux. Et tout ça tend à accroître cette fracture, à renforcer le sentiment de relégation et de défiance de la minorité russophone, dont il faut préciser qu'elle n'est pas du tout monolithique dans le soutien à la Russie. Il y a une petite partie de la population russophone qui, en effet, souvent par nostalgie de l'URSS, soutient la Russie, mais il y a aussi de très nombreux russophones qui sont parfaitement loyaux à l'État estonien et qui sont farouchement opposés à la guerre en Ukraine.
Vous rencontrez par exemple un élu du conseil municipal de la ville de Finlande, de Carélie du Sud, où vous vous rendez, la petite ville d'Imatra. Il dit être accusé de faire le jeu de Vladimir Poutine quand il regrette, par exemple, en conseil municipal, que des centaines d'emplois se sont volatilisés dans l'hôtellerie-restauration ou dans les usines de papeterie qui ne peuvent plus importer de bois bon marché de Russie. Il vous dit maintenant, on m'accuse de, jeu, de faire le jeu de la Russie alors que je ne veux que sauver notre territoire. Néanmoins, certains projets de coopération ont réussi à préserver. La Lituanie, par exemple, essaie de ne pas donner prise à la rhétorique du Kremlin, parce que le Kremlin, aujourd'hui, c'est très facile pour lui de dire « Regardez comme les communautés russophones sont mises à l'écart ». Donc la Lituanie essaie de faire plein d'efforts que vous détaillez dans vos reportages. La Norvège aussi, dans le nord de la Norvège, certains accords qu'on essaye de maintenir comme on peut.
Et en fait, ce qui est frappant, c'est que entre la chute du rideau de fer au tout début des années 90 et le début de la guerre en Ukraine en 2022, les relations entre les pays européens frontaliers de la Russie et la Russie avaient repris. Alors, elles diffèrent d'un pays à l'autre, elles sont parfois simplement économiques, mais il y a aussi des échanges culturels, des échanges sportifs, et parfois des projets de développement commun. Et c'était notamment le cas en Norvège. La Norvège a 200 kilomètres de frontière avec la Russie, et la ville de Kirkenes, où je me suis rendu, est en fait complètement isolée du reste de la Norvège. Donc les habitants de Kirkenes, ils se sentaient plutôt depuis 30 ans plus proches des Russes qui vivent à Mourmansk, de l'autre côté de la frontière, que des habitants d'Oslo. Et donc, plein de projets de coopération se sont construits, y compris économiques. L'économie de Kirkenes reposait beaucoup sur cette coopération transfrontalière. Elle affronte donc des difficultés assez sérieuses depuis le début de la guerre en Ukraine. Et il y a une forme de nostalgie de l'époque où on pouvait imaginer construire une identité arctique commune aux Norvégiens et aux Russes. C'est un peu un cas isolé cependant. Les pays baltes ont, eux, construit des relations économiques avec la Russie qu'ils ont très largement coupées depuis 2022. Vous mentionnez l'exception lituanienne qui est liée au fait que la Lituanie est entourée d'un côté par la Biélorussie et de l'autre par l'enclave de Kaliningrad, qui, comme son nom l'indique, est une enclave. La Lituanie, pour ne pas être accusée d'affamer Kaliningrad, autorise la circulation, le transit par son territoire de trains, de passagers et de marchandises qui permettent à la Russie de ravitailler Kaliningrad de façon quasiment quotidienne. Ces trains, ils s'arrêtent pas en Lituanie, sauf avant de pénétrer à Kaliningrad pour être contrôlés par les gardes frontières lituaniens. Et c'est la seule véritable exception à cette rupture qui, pour le reste, est quasiment totale entre les pays frontaliers et la Russie.
En Estonie, et c'est davantage de l'ordre du symbolique, la petite ville de Narva, qui se trouve en face de la commune russe d'Ivan Gorod, a fait fermer ce qu'on appelait le pont de l'amitié entre les deux pays. Il l'a fait fermer aux voitures et a déployé dessus des obstacles anti-chars. Pour ce qui concerne les frontières, plus généralement et sur de plus longs kilomètres, est-ce que tous ces pays sont en train de fortifier leurs frontières ?
Oui. La Finlande, qui est encore une fois le pays qui a l'attitude la plus martiale, a purement et simplement fermé ses 11 postes frontières au tout début 2024. Et c'est le seul pays qui a fermé de manière hermétique sa frontière avec la Russie. Pour les autres, ils ont réduit la circulation, ils ont fermé certains postes frontières. Ils ont érigé des barrières plus ou moins spectaculaires, plus ou moins équipées d'électronique. L'idée étant d'empêcher la Russie et la Biélorussie d'instrumentaliser les flux migratoires, ce qui a été fait contre la Norvège, contre la Finlande, contre les Pays-Baltes et contre la Pologne. La frontière est en train de s'étanchéifier. Et par ailleurs, en effet, les armées de ces pays, notamment les Baltes et les Polonais, sont en train de construire tout un réseau de fortifications, alors qu'ils se composent de fossés anti-chars, d'obstacles de béton ou de métal.
Des dents de dragon, des hérissons tchèques.
Absolument. Ils se préparent également à disposer des mines antipersonnelles. Ils ont pour cela pris la décision de quitter le traité d'Ottawa qui interdit l'utilisation de ces dispositifs. Ils sont prêts à les disposer très rapidement si la menace russe devient demain ou après-demain plus imminente. Donc ce rideau de fer se double d'un mur défensif dont la construction prend du temps et coûte pas mal d'argent. Mais on sent que la décision a été prise et que ça va se mettre en œuvre dans les années qui viennent.
En Lettonie, vous racontez, Cyril Louis, des parcelles de terrain privés qui ont été réquisitionnées par l'armée jusqu'à 30 km de la frontière sans attendre l'issue des recours engagés par leurs propriétaires. Tous ces pays se justifient en expliquant, par exemple, en Finlande, que Vladimir Poutine a ordonné fin 2023 à la création d'un nouveau corps d'armée en Carélie orientale, donc tout près de la Finlande. Il y a des images satellites qui montrent qu'en effet des choses se passent à la frontière. Il y a aussi une guerre hybride qui se joue, celle-ci des frontières, opérations de brouillage GPS, ballons à l'hélium contenant des cigarettes de contrebande qui survolent la Lituanie régulièrement, très certainement pour causer du tort à la fois à l'armée sur place, mettre le bazar et continuer à alimenter des réseaux criminels. Est-ce qu'à l'inverse, certains que vous avez rencontrés, Cyril Louis, essayent de tempérer ce qui est en train de se passer ? Essaye de dire, c'est pas pour maintenant. Il faut y aller doucement. On a encore des objectifs sociaux et une population dont il faut s'occuper. Et tout notre argent ne doit pas être mis là. Et il faut ne pas avoir tous les jours la peur au ventre.
Alors la minorité russophone en Estonie et en Lettonie, j'en parlais à l'instant. Et peut-être un peu plus critique des investissements militaires qui sont mis en œuvre depuis 4 ans. Pour le reste, il y a un relatif consensus derrière l'idée que c'est important de se réarmer et de reconstruire une dissuasion qui fasse comprendre aux Russes que ces pays n'ont pas l'intention de se laisser faire. Là où il y a des discours, des nuances, disons, dans les discours, c'est qu'en fait, les dirigeants de ces pays considèrent qu'il est à la fois important de faire comprendre à la Russie qu'ils n'entendent pas se laisser manger tout cru, et en même temps, ils ne veulent pas donner le sentiment d'avoir une attitude trop agressive, trop belliqueuse, pour pas donner prise aux accusations russes. Vladimir Poutine est souvent tenté d'accuser les pays baltes de jeter de l'huile sur le feu et de créer les conditions d'une confrontation. Et je pense que les dirigeants baltes veulent pas se retrouver pris en faute, accusés d'être responsables d'une escalade.
Merci beaucoup Cyril Louis, grand reporter au Figaro.
Merci à vous.
Nous mettons sur le site de Culture Monde le lien vers votre série de 6 reportages, Voyage le long du nouveau rideau de fer. Merci d'avoir été avec nous.
Może chciałbym uczyć się. Jesteś taka niezastąpiona. Może nie pójdę więcej tam. Wiesz, tak długo byłem sam. Chciałbym, żebyś zaufała mi. Wiem, że przeze mnie czasem płaczesz. Jutro chciałabyś mieć na dziś. Może mi brakuje sił. Ty wiesz, że kocham cię, lecz sama jestem ci. Przecież znam twój plan. Musisz jeszcze dać mi czas. Jakbym miał bez ciebie żyć. Przy tobie mogę spać z jaszczurkami. Śniło mi się, że mieliśmy dom. Może ty zrób pierwszy krok. Ty wiesz, że kocham cię, lecz sama jestem dziwna. Dziś tylko słowa, twoje słowa będą leczyć mnie. Ty wiesz, że chciałam.
Daria Zawialow et sa chanson Dziwna, qui veut dire étrange, c'est une chanteuse polonaise. Elle chantait cette chanson en 2023. On quitte les frontières de l'Europe avec la Russie pour notre table ronde d'actualité consacrée aux discours et aux actes pour soutenir la révolte iranienne. Ces centaines de milliers de personnes qui ne forment plus qu'une seule et même artère face aux cisailles qui paraissent insatiables de la mitraille policière.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
What is happening in Iran is abhorrent and the killing of the young people is.
Ce qui se passe en Iran est abominable. Et le massacre de ces jeunes est une tragédie humaine. Je ne peux pas commenter les actions des autres pays. C'est à eux de décider. Mais nous envisageons sérieusement de renforcer les sanctions contre l'Iran. Ces sanctions sont efficaces. Je ne les ignorerai donc pas. Elles sont efficaces et portent leurs fruits. Elles affaiblissent le régime et contribuent à accélérer sa chute et l'avènement d'un changement. En fin de compte, c'est le peuple iranien qui lutte courageusement pour le changement. Il a tout notre soutien. Tout notre soutien politique.
Des mots ailés et transfrontaliers qui ne sont certainement pas parvenus à celles et ceux auxquels Ursula von der Leyen les adressait. Internet est toujours coupé. Les Iraniens, qui n'ont pas craint de témoigner leur colère dans les rues ces dernières semaines, doivent déjà sauver leur peau et compter leurs morts. Certaines ONG comme Iran Human Rights, basées en Norvège, estiment aujourd'hui à 25 000 ceux et celles que la violence de la répression a tués. Et fait rarissime, le régime en reconnaît 3117, même s'il n'a pas la même définition de ce qu'est un martyr. Et qu'il attribue la responsabilité de ses morts à Donald Trump. Téhéran l'accuse d'avoir ouvertement encouragé les fauteurs de troubles. Ce sont les mots du régime. Alors que le Conseil des droits de l'homme de l'ONU se réunit aujourd'hui en urgence pour évoquer l'Iran et la répression des manifestations contre le pouvoir à l'initiative de pays européens, cette réunion que peut la soi-disant communauté internationale. Nous en parlons avec nos invités. Bonjour Farid Vahid.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes spécialiste de l'Iran à la Fondation Jean Jaurès et enseignant à Sciences Po. Bonjour Thierry Coville.
Oui, bonjour.
Et bienvenue, vous êtes docteur en sciences économiques, spécialiste de l'Iran à l'IRIS et auteur de L'Iran, une puissance en mouvement, paru aux éditions Erol. Merci donc d'être avec nous et bonjour Marc Semo.
Bonjour.
Notre partenaire du Monde, et on commence avec votre éditorial, Marc.
Oui, alors, tu l'as dit, Julie, une chape de plomb s'est abattue sur l'Iran, où le régime déchaîne une politique de terreur qui, au moins à court terme, semble avoir brisé la révolte de tout un peuple. Le régime des mollahs veut afficher une apparente normalité, les accès à Internet restent pour le moins problématiques, mais ils fonctionnent un tout petit peu, mais très peu, pour mener sa sanglante reprise en main. La monarchie a encore besoin d'un huis clos. Jamais dans l'histoire de la République islamique, un mouvement de protestation n'a vu une telle ampleur, touchant aussi bien les petites villes que les villages, toutes les générations, toutes les couches sociales. Logiquement, jamais la répression n'a été aussi massive et sanglante, et la terreur est au diapason de la peur d'un régime aux abois. La fin de ce régime clérical, obscurantiste, sanguinaire, sera une libération pour son peuple, qu'il prive des libertés les plus élémentaires et qu'il contraint à vivre dans la misère, mais aussi pour ses voisins, qu'il a déstabilisés pendant des années avec ses proxys, et aussi, au-delà, surtout s'il arrive à mener jusqu'au bout son programme nucléaire. La solitude du peuple iranien dans son combat, donc, n'en est que plus étonnante et tragique. Donald Trump l'avait appelé à se soulever, à occuper les bâtiments publics, clamant que l'aide est en route, mais rien n'a suivi, même si maintenant on parle d'une armada se dirigeant vers le Golfe. Riyad et les autres capitales du Golfe s'étaient activés pour le convaincre de renoncer aux frappes évoquées, arguant à la fois des risques de représailles iraniennes et des risques d'un chaos déstabilisant toute la région. L'Europe, au-delà des mots, ne soutient pas non plus vraiment la révolte iranienne. Les protestations sur la répression n'ont été suivies d'aucune action concrète, dont par exemple l'inscription des gardiens de la révolution dans la liste européenne des organisations terroristes. Les conséquences pratiques seraient certes limitées. Les pages d'Aran, qui contrôlent 50% de l'économie du pays, sont déjà visées par les sanctions frappant l'Iran. Ce serait néanmoins un signal fort et plus que jamais nécessaire.
Merci Marc Semo. On va commencer avec l'aspect militaire. Thierry Coville, quelle importance est-ce qu'il faut donner aux déclarations hier soir de Donald Trump selon lesquelles une armada navale, comme vient le dire Marc Semo, est en route pour le Golfe Persique? Quoi de vraiment nouveau après les gros porteurs américains autour des bases de l'armée états-unienne dans les pays du Golfe, les avions ravitailleurs observés déjà vers Hawaï et l'océan Pacifique, ou les bombardiers furtifs qu'on a aussi vus s'approcher de l'Iran? Qu'est-ce qu'il faut, comment lire cette déclaration de Donald Trump?
Alors, moi je ne suis pas du tout spécialiste des questions militaires, mais j'écoute plutôt les experts que j'entends sur notamment BBC Persan. C'est vrai qu'on entend beaucoup que Donald Trump a reculé, comme ça vient d'être dit, hein, quand il a quand même demandé aux gens d'aller dans la rue s'emparer des vêtements publics, il faut le dire quand même. Ils se sont fait quand même tuer, et il les a dit « allez-y parce que l'aide arrive », et l'aide n'est pas arrivée. Donc là, il y a quand même, je pense, un gros problème. Alors effectivement, on entend Ce que j'entends de la part des experts, c'est ce n'est que partie remise. Avec lui, c'est d'une tactique. Il s'est pas engagé tout de suite parce que notamment il n'y avait pas assez de force dans le golfe Persique. Donc il est en train d'amener ses forces. Donc ce que j'entends, c'est que il est probable avec toute la prudence qu'il faut avoir que bon, il va peut-être agir. Mais les questions, et il vient d'en parler, sur qu'est-ce qu'il peut faire aussi, reste posé quand même parce que lui, il veut plutôt un coup rapide pour aider les manifestants et déstabiliser le régime. Je l'avoue que là, on est quand même dans le brouillard le plus complet.
Farid Vaid, est-ce que les bases américaines au Moyen-Orient sont toujours en alerte? La base d'Al Udeid au Qatar notamment. J'imagine que les pétromonarchies du Golfe n'ont pas changé d'avis depuis la mi-janvier quand elles ont dissuadé Donald Trump d'intervenir militairement contre l'Iran.
Alors, sur la question de l'intervention militaire américaine ou pas, je pense qu'il faut quand même comprendre qu'à ce stade, une non-intervention militaire américaine, je pense que c'est une garantie d'une guerre civile en Iran. Pourquoi je dis ça? Il aurait pu ne pas parler. Il aurait pu ne rien dire. Mais il a dit à plusieurs reprises, Donald Trump. Si j'étais son conseiller, à la limite, je lui aurais dit, attends, on verra ce qui se passe, on prendra position après. Le problème, c'est que le chef de la plus grande puissance du monde, le leader du monde libre, la plus grande démocratie d'Occident, dit à plusieurs reprises, s'il y a répression sanglante des manifestations, on va réagir. Un peu Obama, Syrie, et voilà, on se souvient de ces lignes rouges. Donc s'ils ne font rien, je ne sais pas, va-t-en guerre, mais enfin, s'ils ne font rien, quel est le message qui est envoyé au régime? Ça veut dire, bah, comme l'a dit Zelensky hier très justement, ça veut dire, bah, tant que vous tuez suffisamment, vous pouvez rester au pouvoir. Et quel est le message qui est donné aux Iraniens? Ils ne vont pas sortir indéfiniment pour se faire tirer dessus. Je veux dire, aujourd'hui, il faut comprendre que le régime tient que par la force létale. Ils sont défaillants dans toutes leurs fonctions. Donc s'ils tiennent, aujourd'hui, c'est par la peur, la terreur. Et même cette peur a changé de camp, parce que finalement les gens sortent, et le régime a décidé, on voit les images, de tirer avec des armes automatiques sur la population. Donc à un moment, cette situation n'est plus tenable. Juste sur les éléments plus techniques de l'intervention militaire américaine. Alors c'est vrai qu'ils n'étaient pas prêts. Donc je pense encore une fois, il avait parlé trop tôt. Les porte-avions n'étaient pas dans la région. Ils doivent aussi préparer la défense, parce qu'il y aura une riposte iranienne. Donc il faut mettre en place le système de défense anti-aérien. Les Américains, ils n'ont pas envie à plusieurs mois d'émi-terme d'avoir des soldats américains morts. Et les pays de la région, où l'aviez dit, Marc, que ça peut être une bonne nouvelle, la libération de l'Iran, pour tout le monde. Et ben, en fait, je ne pense pas. Je ne pense pas pour les pays du Golfe Persique. Je pense, eux, ça les arrange complètement d'avoir un Iran hors système, hors circuit économique, parce que c'est un concurrent en moins. C'est 92 millions d'habitants qui sont finalement pas sur la scène internationale. Donc, en fait, les pays du Golfe Persique, ça leur va très bien. Ils sont obsédés par une seule chose, c'est la stabilité. Donc, ils détestent les guerres, ils détestent les interventions militaires.
On a vu ce que ça donnait en Irak, ils ont peut-être ça en tête aussi.
Oui, peut-être, mais je pense, en tout cas, dans la région, à part les Israéliens, personne, je parle des États, ne soutiendrait une intervention militaire américaine, même par la Turquie.
Marc Semo.
Alors, concrètement, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Parce que les manifestations ont quasiment cessé, contrairement à l'apogée des 8 et 9 janvier. Donc là, on pouvait dire faire des frappes visant les structures de la répression, les casernes des gardiens de la Révolution, etc. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, ils peuvent faire? Le déploiement de troupes au sol est hors de question. Trump fait des menaces de guerre. Il fait des actes de guerre type l'enlèvement du président vénézuélien, où il peut faire des frappes en Iran, y compris peut-être visant au plus haut niveau Ali Khamenei lui-même, mais il ne fait pas la guerre, parce que ça serait totalement contre-productif par rapport à ses engagements de campagne. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui en Iran?
Et j'en profite pour rappeler qu'on a consacré toute notre semaine dans Culture Monde au Venezuela après l'attaque militaire des États-Unis et l'enlèvement de Nicolas Maduro, et que même si nos invités ont pris longuement le temps de raconter comment le gouvernement chaviste était devenu peu à peu autoritaire et corrompu, il n'en restait pas moins que cette intervention des États-Unis était illégale. Du reste, le régime, lui, s'est maintenu avec Delcy Rodriguez. Ce qui n'est pas advenu avec Nicolas Maduro peut-il se produire avec l'ayatollah Khomeini, et est-ce qu'on peut cette fois s'inscrire dans le cadre du droit international, Thierry Coville?
Pas du tout. Enfin, de nouveau, alors il faudra voir, effectivement, je crois qu'il y a une disposition des Nations Unies, il faudrait voir si, effectivement, quand un peuple est aussi réprimé, est-ce que ça ne justifie pas une intervention?
Regarde, mais là, un vote pas. Sans mandat du Conseil de
sécurité. Voilà, on revient là-dessus. Non, je pense que ça en dit long, d'ailleurs, ça en dit long sur quelque part, excusez-moi, l'état du monde sur... J'ai pas entendu un seul homme politique poser cette question, quand même, sur la légalité d'une frappe américaine. J'entends même des hommes politiques français, je les citerai pas, qui sont tout à fait d'accord avec ça. Donc, il y a la question de la légalité internationale.
C'est une idée qui a fini par avancer. On parle aux États-Unis même de « sane washing », c'est-à-dire on essaye de prêter à Donald Trump et aux États-Unis des... ils pourraient devoir se conformer au droit international, alors que ça n'est pas leur propos.
Oui, oui. Et alors, ensuite, je voulais revenir sur cette question de comment dire, qu'est-ce qu'il peut faire, parce que c'est quand même, je reviens, c'est quand même le brouillard total, parce que un coup rapide pour un pays aussi grand que l'Iran, c'est trois fois la France quand même, avec des forces de sécurité qui existent, il y a à la fois, on parle des passes d'Aran, mais l'armée officielle iranienne a dit qu'elle était, alors elle n'a pas dit qu'elle était d'accord avec la répression, mais elle a dit qu'elle se rangeait, d'ailleurs il n'y a même pas une question à se poser, du côté du gouvernement. Donc on a quand même tout un appareil sécuritaire, toute une armée, donc c'est là où je suis très sceptique, parce que j'entendais de nouveaux experts dire, bon il y a trois possibilités, il ne fait rien, alors effectivement ça pose un énorme problème, comme vous l'avez dit, par rapport à sa crédibilité, hein, même s'il a dit...
Et pour
faut
le
rappeler, il s'est raccroché à ça. Donc, vous voyez, il était quand même mal à l'aise. Il a dit, oui, je crois que c'est le ministre des Affaires étrangères iranien qui lui a dit, on va arrêter, on va pas faire d'exécution des pendaisons, des condamnations à mort.
Des 800 pendaisons qui auraient été.
Voilà, 800, il s'est raccroché à ça pour dire. Mais, ou bien, il tape quelques petites bases, des passes d'Aran éventuellement. Ça change rien. Mais, un seul coup rapide, on sait très bien. Je veux dire, changer l'équilibre des forces. Arriver à arrêter ou supprimer tout le système répressif iranien, et en même temps, comme ça vient très bien d'être dit, c'est quand même énorme. On demande à la population qui n'a pas d'armes, on voit aussi les limites de cette stratégie, d'aller dans la rue, de se faire tuer. Donc si vous voulez, on en reste sur qu'est-ce qu'il peut faire, mais je pense que il faut faire très attention, je vois pas trop ce qu'il peut faire, excusez-moi.
Je vous en prie, Farid Veil, dans une tribune dans Le Monde, vous écriviez récemment qu'une intervention militaire qui serait par ailleurs extrêmement complexe à mettre en œuvre pourrait soit se solder par un affaiblissement considérable du régime jusqu'à son effondrement, soit causer des effets contre-productifs et non souhaitables, lesquels ?
Alors, c'est toute la complexité de l'opération, comme ça a été dit, l'Iran c'est trois fois la taille de la France, c'est 92 millions d'habitants. Donc effectivement, une action rapide et décisive comme Donald Trump aime bien, style Venezuela, ça ne fonctionnera pas sur l'Iran. Donc effectivement, soit ils font une attaque symbolique, et ils savent très bien le faire, les Iraniens le font d'ailleurs assez souvent, ce type d'attaque où ils appellent quelques heures avant pour dire évacuer la base, donc ils peuvent faire quelque chose comme ça, ça n'aura pas trop de sens. Soit c'est une guerre, on va dire, à l'israélienne, ça veut dire ils y vont pour frapper les centres politiques, le Parlement, le bureau du guide, le palais du président, pour frapper des bases militaires des gardiens, pour frapper des infrastructures énergétiques, en gros pour paralyser le pays. Mais là, il y aura des conséquences, parce que si les gardiens considèrent qu'ils n'ont plus rien à perdre, ils peuvent faire mal aussi. Ils peuvent faire mal aux Américains, à leurs bases militaires, ils peuvent faire mal aux Israéliens, ils peuvent faire mal aux pays de la région. Donc effectivement, je pense que Donald Trump, quand il publiait ses tweets en disant aux Iraniens, allez-y, on arrive, je pense en fait il n'avait pas conscience de la gravité de la situation, soit il joue sur une ambiguïté stratégique, et c'est peut-être le cas parce qu'on est tous perdus, donc le régime aussi, et peut-être qu'il joue sur cette ambiguïté-là. Sur les effets indésirables, bah ça veut dire la guerre civile, ça veut dire le chaos, ça veut dire l'absence d'État central dans un pays stratégique qui a un nœud central entre l'Afghanistan, la Turquie et l'Irak. Donc ça veut dire un moment indésirable et chaotique pour tout le monde.
Oui, Thierry Coville, rapide.
Pour parler crûment, est-ce que l'élimination ciblée d'Ali Khamenei, du guide suprême, aurait un effet? C'est-à-dire, pendant la guerre des 12 jours, l'été dernier avec les Israéliens, à un moment, ça avait été évoqué, il semble, à l'époque, on disait que les Américains avaient bloqué une telle décision. Est-ce que ça aurait un sens, ou ça serait, quelque chose sans précédent? Et en même temps, qui finalement n'aurait pas d'effet
profond. Oui, ça serait très illégal, peut-être en vue du droit international, mais je pense que ça aura des effets majeurs sur
le régime.
Pas forcément s'effondrer, mais en tout cas, les plus durs qui tiennent aujourd'hui le pouvoir sont guidés par l'ayatollah Khamenei. Donc, son élimination aura des conséquences sur le système.
Je pense qu'avant de... Parce que je ne pense pas que ce soit le boulot des chercheurs. Malheureusement, j'entends trop souvent actuellement sur toutes les chaînes, il n'y a pas qu'en France... C'est à qui aura la bonne idée pour résoudre tous les problèmes. Ce que je peux parler, c'est la situation politique actuellement en Iran. C'est pour ça que là, je suis très sceptique par rapport à... Tout d'un coup, on intervient militairement, alors qu'on a vu ce que ça a causé dans la région, quand même. Et tout d'un coup, on va avoir une belle démocratie pro-occidentale, etc. j'ai entendu deux sondeurs, et ça venait d'Iran même, qui fait une énorme émission sur qu'est-ce qu'ils savent de l'état de la population iranienne. Et ce qui était très intéressant, c'est qu'effectivement, en 2021, ils ont fait un sondage, et ils se sentaient proches des principaux partis iraniens, conservateurs et réformateurs. En 2021, avant la crise de 2022, c'était moins de 10% de la population. Donc on peut dire qu'il y a un vide politique en Iran. Il y a eu 50% de taux de participation aux dernières élections présidentielles, le plus faible depuis la révolution. Donc il y a un vide politique en Iran et un soutien limité au RIP. D'un autre côté, et la conclusion d'un des deux sondeurs, c'était qu'il y a un risque de populisme en Iran. Pourquoi ? Il n'y a pas un discours alternatif majoritaire qui s'impose. Donc on a une population très polarisée. Il y a quand même 14 millions d'Iraniens qui ont voté pour Jalili, le plus radical des radicaux, aux dernières élections présidentielles. Donc une population très polarisé, avec pas un... Il y a des soutiens à Pahlavi, on l'a vu, mais c'est pas du tout majoritaire. Donc il y a des risques, effectivement, de guerre civile, je crois, ça dépend jusqu'où va le conflit, et je pense qu'il faut faire très attention, si vous voulez, le passage, une guerre, une intervention étrangère, belle démocratie, dans la région, ça a pas marché. Alors en Iran, quand même, qu'il y a une longue tradition historique de résistance à l'étranger, je veux dire, quelque part, la révolution de 79... Je parle sous contrôle de tous les historiens, c'est parce que beaucoup d'Iraniens, et des millions à l'époque, estimaient que les Pahlavi n'étaient pas légitimes parce qu'ils étaient arrivés au pouvoir en 53 à cause des Américains et des Anglais.
Oui, les Pahlavi qui avaient le soutien des États-Unis, des Occidentaux, de l'OTAN.
Plus que le soutien, était complètement dépendant. Donc on a une situation, un vide politique en Iran. Il n'y a pas un discours, une alternative politique crédible qui s'impose. Est-ce que c'est une situation politique où une intervention militaire va conduire à une belle démocratie? Je suis un peu sceptique.
Vous avez cité Thierry Coville, Reza Pahlavi, le fils du dernier chat d'Iran, qui ne cesse de s'exprimer depuis les États-Unis. Quoi de nouveau dans ces prises de position et la publicité, entre guillemets, ou les relais qui leur sont faits à ces propos à lui, de cet héritier de la dynastie des Pahlavi, Farid Vahid, quelle audience réelle des monarchistes en Iran et aussi celle des Moudjahidines du peuple. Est-ce que ces opposants dont la voix porte à l'étranger ont du crédit sur place?
Alors, il y a une dynamique autour de lui, c'est indéniable, on le voit dans les slogans, on le voit dans les symboles, mais il faut quand même faire très attention. Alors, effectivement, il y a un moment peut-être populiste en Iran, mais au-delà de ça, je ne pense pas que les Iraniens soient très polarisés. Il y a une minorité qui soutient le régime, pour des raisons économiques, pour des raisons aussi idéologiques. Mais il y a une très grande majorité d'Iraniens qui peuvent se mettre d'accord sur un cadre, sur la séparation de la religion et de la politique, sur une normalisation avec le monde, sur une prospérité économique, sur des libertés individuelles et civiles. Donc sur ça, je pense que la très grande majorité des Iraniens peuvent se mettre d'accord. Si on résout pas la vie, il faut nuancer, hein, c'est pas... Tous ceux qui voient en lui un potentiel leader de la transition ne sont pas monarchistes. Et lui-même, d'ailleurs, ne prétend pas vouloir instaurer une monarchie absolutiste.
Et d'une république laïque, plutôt.
En Iran, oui, en fait, les gens, à défaut d'autres alternatives, voient effectivement de plus en plus en lui la personne qui pourrait être capable de mener, on va dire, cette transition-là. Après, la société iranienne, elle est extrêmement complexe. Alors, si vous pensez que le Parlement français éclaté dans un Iran libre, le Parlement iranien le sera encore plus, avec des coalitions encore plus étonnantes. Donc voilà, il ne faut pas généraliser toute l'opposition iranienne. Mais effectivement, Reza Pahlavi, c'est aussi parce qu'il a les mains libres, parce qu'il n'est pas en Iran, parce qu'il n'est pas en prison. Donc il a une capacité d'action que des opposants sur le terrain n'en ont pas. Donc effectivement, il a pu créer cette dynamique. Maintenant, voilà, le défi pour lui, c'est de voir s'il arrive à élargir sa base et parler à d'autres partis de l'opposition qui ne sont pas traditionnellement proches des monarchistes ou non.
Marc Semo.
Oui, mais je voudrais un peu élargir aussi au niveau de qu'est-ce qu'on peut faire, notamment l'Union européenne. Est-ce que le fait d'inscrire les Pasdaran comme organisation terroriste est purement symbolique ou malgré tout ça pourrait être utile?
Thierry Coville, la France, l'Italie, l'Espagne ne sont pas pour d'ailleurs et ça peut être l'occasion
L'Allemagne,
de dire pourquoi.
L'Allemagne est pour et la France est en train de changer un peu là-dessus.
D'accord. Thierry Coville.
Alors, on m'avait posé la question, c'était pour la consultation pour le Parlement belge, et à l'époque, mon raisonnement, c'était, alors les Pasdaran, d'après ce qu'on sait, c'est compliqué, mais le secteur parapublic iranien, les Pasdaran et Fondation Révolutionnaire, contrôlent 20% de l'économie iranienne, ce qui est déjà énorme. Hein. Mais je pensais à l'époque, c'était quand même bloquer toute possibilité de négociations, notamment si l'Europe voulait, la clé à l'époque, c'était quand même le nucléaire iranien. Donc, à mon avis, à l'époque, c'était que on se bloquait la possibilité pour l'Europe, qui est déjà mal au point dans les négociations nucléaires avec les États-Unis, qui veulent avoir un discours bilatéral avec l'Iran. Donc, je pense que c'était pas une bonne idée. si vous voulez, plus largement pour les sanctions, moi je pense que si on doit se distinguer, parce qu'on en parle actuellement, l'Europe des États-Unis, vous avez vu la déclaration de Scott Bessent, le secrétaire au Trésor américain, qui sans vergogne, sans rien, dit oui, si les gens sont sortis de la rue, c'est grâce à la politique de pression maximale de Trump. On l'a rendu la vie tellement difficile qu'ils sont sortis dans la rue. Et ces déclarations, c'est exactement la copie conforme de ce que disait Pompeo lors du premier mandat de Trump. On met, et c'est d'ailleurs ce qu'ils font avec Cuba, avec d'autres pays, on met une pression économique telle que le gouvernement changera son comportement. Autrement, il n'a pas le choix, la population va sortir dans la rue. Donc si vous voulez, moi je pense qu'il faut quand même se réfléchir du côté européen. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Je pense que ce n'est pas du tout dans notre ADN. On parle de respect du droit international. Le coût social quand même des sanctions, moi je pense... On peut démontrer le, si on me démontre le contraire, je suis d'accord. Depuis 2012, pourquoi l'inflation, elle était entre 30 et 50% en Iran? C'est 95% à cause des sanctions américaines. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème dans l'économie iranienne. Donc, si vous voulez, est-ce qu'on est d'accord avec ça? Le taux de pauvreté, il est monté à la fin du mandat de Trump à 50%. Donc, est-ce qu'on est d'accord avec ça? Est-ce que c'est en d'accord avec notre stratégie? Je pense qu'il y aura quand même une réflexion à mener en Europe.
Farid Vaïd, les sanctions inutiles, nécessaires.
Non, et inscrire les pays arabes comme organisation terroriste.
Surtout.
Au-delà des sanctions de la liste, je vais répondre, mais je trouve qu'il y a quand même une lâcheté européenne, moi qui en tant qu'Iranien, franco-iranien, m'exaspère. C'est-à-dire on se cache derrière une soi-disante incapacité à faire quoi que ce soit. De toute façon, c'est la même chose sur l'Ukraine, il le disait encore Zelensky hier pendant son discours. Et en fait, c'est trop facile de dire on peut rien faire. On dit aussi un peu le droit international ne permet pas de le faire. Et en fait, ça nous arrange finalement. Ça arrange le Quai, ça arrange l'Elysée, ça arrange la Commission européenne, finalement, de ne pas se mouiller. Alors, on peut ne pas aimer le style américain, la méthode américaine, mais eux, ils sont acteurs. Ils sont acteurs par Starlink, ils sont acteurs par les sanctions, ils sont acteurs par la crédibilité de leurs menaces militaires. Les Européens, aujourd'hui, alors, effectivement, vous posez la question si on est à l'aise ou non avec les sanctions et le fait que la classe moyenne iranienne a disparu. Mais on peut aussi demander, est-ce qu'on est à l'aise ou non à avoir des jeunes de 17, 18, 19 ans qui sortent pour les mêmes valeurs que les nôtres, c'est-à-dire liberté, égalité des droits, égalité homme-femme, et qui se font littéralement tirer dessus dans la tête avec des armes automatiques. Est-ce qu'on est à l'aise avec ça? Apparemment, on l'est, parce qu'on a décidé de ne pas réagir. Je veux dire, von der Leyen, ce qu'elle dit, c'est complètement ridicule sur les sanctions. L'Iran est déjà le pays le plus sanctionné du monde. Et par l'extraterritorialité du droit américain, le pays est déjà complètement coupé du monde. Aucun Iranien aujourd'hui à Téhéran pourrait faire un virement de 500 euros à quelqu'un en Europe. Donc en fait, c'est un non-sujet. Les Américains, ils ont déjà fait ce travail-là. Sur la question des gardiens, oui, ça serait... C'est symboliquement, ça veut quand même dire quelque chose. C'est un signal très fort qui est envoyé au régime, à la population. Donc, à ce stade, je pense que ça serait utile de le faire. Mais ça, faut pas croire que ça va changer la vie des gardiens, parce qu'ils sont déjà sous sanctions américaines.
Comme chaque vendredi, notre partenariat avec l'association de dessinateurs de presse Cartooning for Peace, c'est le moment où je vous ai fait parvenir la caricature d'un dessinateur iranien qui est par ailleurs auteur de romans graphiques qui s'appelle Manan Yestani. Alors on y voit un amoncellement de sacs mortuaires qui jonchent le sol et devant eux l'ayatollah Khamenei qui a ouvert l'un des sacs où se tient un manifestant manifestement encore agonisant et de sa bouche s'échappe le mot liberté et Khamenei attrape la bulle du dessin où est inscrit ce mot, liberté, la saisie de la main droite, il a une mitrailleuse dans la main gauche et il dit, vous voyez que c'était des terroristes armés. Est-ce que je peux vous demander à l'un et à l'autre une réaction, Farid Vaïd, à ce dessin?
En fait, moi ça me fait mal quand je vois les images comme ça, parce qu'en fait ça me fait penser forcément aux très peu d'images qu'on avait pu voir avec Starlink. Effectivement, en fait, pendant deux, trois semaines, on n'avait pas de nouvelles de nos familles et les seules images qu'on voyait sortir du pays, c'est des centaines de cadavres dans des sacs. Donc voilà, encore une fois, après, ça me frustre un peu, honnêtement, d'avoir notre non-réaction face à cette situation.
Thierry Coville, on parlait tout à l'heure, on disait que donc certaines images par Starlink, par les satellites nous sont parvenues. Marc Semo disait que certaines zones étaient encore coupées d'Internet, mais pas toutes. Est-ce qu'il y a encore des espaces d'expression en Iran d'où nous parviennent encore aujourd'hui des informations et on peut savoir davantage?
Je suis chercheur, je travaille mon persan depuis 30 ans. Je suis pas toute la journée, mais ce que je vois, par contre, on commence à avoir une image un petit peu plus précise. Parce qu'il y a des vidéos qui arrivent de manière éparse, notamment à BBC Persan. Donc c'est vrai que les reportages qu'on a sont absolument terribles. C'est-à-dire, effectivement, j'ai eu des reportages sur les médecins qui ont dû opérer pendant quasiment 4 jours de suite sans dormir. voilà, je ne donne pas de description, mais on commence à voir ce qui s'est passé. Donc, effectivement, vous l'avez très bien dit au début, le degré de violence et le degré de répression est carrément, n'avait jamais été atteint depuis la Révolution. Donc, et je pense que c'est un énorme traumatisme, un énorme choc, comme ça vient aussi d'être très bien dit, pour toutes les familles iraniennes qui ont été touchées par ça. Donc, on commence, je ne sais pas si un jour on pourra savoir exactement tout ce qui s'est passé, on commence à avoir des bribes, des vidéos qui sortent, pas autant qu'avant, mais sur exactement qu'est-ce qui s'est passé réellement, et c'est absolument terrible.
Il existe en Iran quelques espaces de liberté de parole, par exemple le réseau social Clubhouse, auquel j'ai appris récemment que participer aux conversations, y compris sous la forme de débats, aussi bien des détenus politiques, des détenus célèbres du régime comme Emir Hossein Mousavi ou Tadjazadeh depuis leur prison, que des acteurs du régime, et les femmes y affichent souvent d'elles des photos non voilées. Est-ce que ça, c'est un acquis de la révolution femme, vie, liberté? Farid Vahid, chaque cycle de contestation laisse des traces, quoi qu'il en soit.
Oui, il ne faut pas avoir cette lecture défaitiste des cycles de protestation en Iran, parce que ça peut, voilà, ça peut créer du désespoir, et en plus, ça ne correspond pas à la réalité. Chaque vague de protestation change la société et laisse des traces aussi sur le régime et affaiblit le régime. Donc, si on prend l'exemple du mouvement Famille Liberté, ça a profondément changé le rapport des femmes à la question du voile, mais ça, encore, c'était commencé avant, mais plus globalement, la relation, en fait, le rapport des Iraniens à la religion. Donc, on voit effectivement aujourd'hui, mais après, ça s'est fait sur le temps long. Les années 2010, les filles mettaient un voile symbolique sur leur tête. Après, petit à petit, ça tombait sur les épaules. Aujourd'hui, la plupart ne prennent même plus de voile avec elles. Ça peut paraître anodin, pas une obsession sur la question du voile, mais c'est important quand même parce que ça veut dire quelque chose. Le voile obligatoire, ça fait partie de l'ADN du régime. Le régime contrôle l'espace public. Alors dans l'espace privé, tout ça, ça avait changé depuis longtemps. Bon, j'avais fait des soirées quand j'étais étudiant à Téhéran, les filles étaient loin d'être voilées. Mais dans l'espace public, le régime dit, voilà, c'est une république islamique, c'est notre espace, on contrôle l'espace public. Donc en fait, le combat de l'espace public pour contrôler l'espace public par le corps, notamment, c'est un combat très important. Le régime ne cédera pas, mais les gens, on voit que par leur courage, ils ont quand même réussi à imposer une certaine forme, on va dire, de liberté. Après, ce n'est pas des acquis dans le sens où la loi n'a pas changé. Le voile est toujours obligatoire, c'est toujours un acte criminel de ne pas se voiler.
C'est plutôt l'armée peut-être qui a un peu lâché là-dessus. Les
femmes n'ont pas le choix. Arrêtées. C'est même pas qu'ils ont lâché. En fait, c'est juste qu'ils sont face quand même à une société qui se sécularise tellement. Parce que cette question-là, avant, ça passe aussi par une forme d'autocontrôle de la société. Une femme non voilée, elle prend des remarques d'un homme lambda dans la rue, ce qui n'arrive plus maintenant, de moins en moins. Donc en fait, c'est toute la société qui change. Et voilà, c'est cette bataille culturelle aussi qui compte beaucoup et qu'il faut comprendre que les Iraniens, ils ont tourné la page de l'islam politique. Et effectivement, il y a des espaces de liberté en Iran. Bon, pour ça, il faut apprendre le persan. Mais une fois qu'on apprend le persan, effectivement, on peut être étonné. Mais sur les réseaux sociaux, là, il y a des podcasts, des émissions qui sont extrêmement vues en Iran. Et on peut être très étonné par la liberté de parole qu'on voit dans ces espaces-là.
Est-ce que les Iraniens ne veulent plus de la République islamique ou veulent une République islamique autre? Est-ce qu'ils accusent la République islamique de l'être ou de l'être mal, pour reprendre les mots de Fariba Adelka, qui publiait en début de semaine sur le site de la revue des idées AOC un long texte et dont je voudrais juste vous soumettre, alors c'est un détail et je la prie de m'excuser de saisir un tout petit détail de son texte au milieu d'autres considérations, mais elle, Fariba Adelka, elle explique voir quelques signes quand même d'une confiance qui semble subsister entre une partie de la société iranienne et l'État, ou pour le dire vite, les institutions iraniennes. Parmi ces signes, le fait que des plateformes d'achat de voitures enregistrent des millions d'inscriptions encore aujourd'hui, ou plutôt en décembre, pour des tirages au sort qui leur permettent de prépayer des voitures mises en vente entre un mois et 8 mois plus tard, tout comme la Banque Centrale a vendu en 2025 des pièces d'or à près de 100 000 personnes selon un même procédé en différé. Or, pour accepter de payer à l'avance quelque chose qu'on nous remettra plus tard, il faut avoir confiance dans la signature de l'État ou dans ses institutions financières et économiques. Ce serait pour elle un des signaux faibles qui montre que la confiance n'est pas totalement rompue. Et j'ai trouvé ça très intéressant et je voulais savoir ce que vous en pensiez, Thierry Coville.
Alors, si l'économie peut servir à quelque chose, pour une fois, donc en tant que pour l'économie politique, de ce qu'on sait, alors il faut rester prudent pour les chiffres, mais la structure de l'économie iranienne, c'est quand même 60% l'État, hein, donc, parce qu'il y a eu des forces de nationalisation après la Révolution. Un secteur parapublic, qui est à mon avis la clé de la résistance du régime, où il y a les Pasdaran et les fondations révolutionnaires, donc ça fait 80%, et 20% un secteur privé iranien, où il y a des vrais entrepreneurs. C'est la force à mon avis, une des grandes clés de la, du potentiel iranien. Il y a des vrais entrepreneurs en Iran, contrairement au reste de la région et même à l'Afrique du Nord. On est surpris de leur dynamisme, de leur résistance, qu'ils arrivent, ils sont optimistes, ils disent que l'État nous donne des femmes entrepreneurs. Ils disaient que l'État me donne ces entreprises qui ne sait pas gérer, moi je vais les gérer. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire que, effectivement, si vous voulez, pourquoi elle tourne l'économie iranienne? Vous avez toute cette classe de technocrates, qui n'en pensent pas moins, mais qui font leur boulot parce qu'ils sont très nationalistes, etc. Donc c'est pour ça que la situation en Iran, faut bien voir, elle est quand même complexe. Vous avez cette minorité, je pense qu'elle existe quand même, hein, alors est-ce que c'est 10% qui soutient le régime pour des raisons idéologiques et économiques sans doute. Une minorité qui le haït, parce que un exemple quand même, ça m'avait frappé, quand il y a eu, vous savez, l'attentat de l'État islamique, excusez-moi, contre lors de l'anniversaire de la mort de Qassem Soleimani, en Iran même, il y avait des gens qui disent « c'est bien fait pour eux », etc. Ce qui est quand même, en Iran, moi, l'Iran que je connais, c'est pas ça. Donc il y a une haine qui s'est dégagée dans une minorité. Et au milieu, c'est là où je suis d'accord, c'est complexe, vous êtes cette classe moyenne qui fait tourner le régime, qui veut la démocratie, l'état de droit, la séparation du religieux et du politique, mais qui attend de voir une vraie alternative politique et que ça se passe sans violence.
Farid Vahid, le mot de la fin.
Alors moi, je ne partage pas du tout l'opinion de Farid. Bon, je pense que c'est une opinion qui n'est plus à jour. Elle a peut-être du mal à comprendre les inspirations
elle est pas
de la
là,
jeunesse.
Il ne s'agit pas de la...
Non, bien sûr, mais je ne partage pas parce que je trouve que c'est une analyse problématique. Les gens, ils continuent à vivre malgré tout parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils ne vont pas arrêter de vivre, ils ne vont pas se suicider. Donc évidemment, qu'ils continuent à travailler, qu'ils continuent à faire vivre le circuit économique, c'est très étrange de dire. Ils vivent, donc ça veut dire qu'ils ont une confiance dans le régime.
En attendant, qu'est-ce qu'il faut faire? Encore une fois, on a...
Qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, les Iraniens, ils continuent à faire. Ils vont continuer leur bataille politique, culturelle. Pour les mêmes raisons qu'il y a eu cette vague de manifestations, il y en aura d'autres. Il n'y a aucune dictature qui est éternelle, donc la République islamique ne le sera pas non plus. Ce que les Européens pourraient faire, c'est de travailler un peu plus, s'intéresser en dehors des vagues de manifestations, s'intéresser à l'Iran et de réfléchir à une vraie stratégie concernant ce pays.
نشستم سر راه چشم راهت تا بیای و ببینم روی ماهت نشستم انتظار دیدن تو گلم برای باز بویدن تو نزارین انتظار پی خودت روزای دوری مونه بشمار ما یاران بی خبر رفته سفر دیر کرده زبونام لال نکنه دلش یه جا گیر کرده ما یاران بی خبر رفته سفر زبونم لال نکنه دلش یه جا گیر کرده
La chanteuse iranienne Sogand, qui vit aujourd'hui à Londres, et dans cette chanson qui veut dire « Je me suis assise », qui date de 2024, elle évoque l'absence d'un être cher. Merci beaucoup Farid Vahid d'avoir été avec nous, spécialiste de l'Iran à la Fondation Jean Jaurès et enseignant à Sciences Po. Merci Thierry Coville. Je rappelle le titre de votre livre « L'Iran, une puissance en mouvement » paru aux éditions Erol. Vous êtes spécialiste de l'Iran à l'Iris. La semaine prochaine dans Culture Monde, on parlera d'autres violences policières utilisées comme armes politiques aux États-Unis avec l'ICE, au Brésil où la politique de l'État de Rio a commis un véritable massacre fin octobre dans une favela et que l'extrême droite locale utilise aujourd'hui comme argument de campagne. En Afrique du Sud, où l'ANC au pouvoir derrière ses discours historiques sur les travailleurs vise aujourd'hui les ouvriers des mines. Et enfin au Sénégal, des répressions récentes classées sans suite malgré les promesses de la nouvelle équipe en place Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko. Merci d'avoir été avec nous dans Culture Monde. Dans un instant, les midis de culture.